biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes-Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes-Mancelles.
Je vous invite à faire la rencontre de Nolwenn Émilie qui vient nous présenter l'association Zéro Déchet en Mayenne, mais également nous parler du bonus réparation, ainsi que nous éclairer quant à la nouvelle loi concernant le tri des biodéchets à la source. Nolwenn, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, présentez-nous l'association Zéro Déchet en Mayenne, ainsi que ses principales missions et actions.
Et alors Zéro Déchet en Mayenne, c'est ce qu'on appelle un groupe local d'une association bien plus grande et nationale qui s'appelle Zéro Waste France. Et Zero Waste France, c'est une association à portée nationale qui compte 4000 adhérents et à peu près 100 000 sympathisants et dont la mission, c'est de travailler à réduire la quantité des déchets qui sont produits par notre civilisation dite industrielle. Donc c'est une asso qui agit auprès des politiques, par exemple en faisant du plaidoyer, qui agit auprès des citoyens en faisant de l'information, de la sensibilisation. Et son travail en fait se décline dans les territoires en groupes locaux. Il y en a 120 sur la France et donc Zéro Déchet Mayenne en est un qui a pour rayon d'action l'intégralité du département de la Mayenne. Et donc nous, on est une association créée depuis 2019.
Et concrètement, quelles sont les activités, les actions qui sont proposées par l'association ?
Alors, on s'adresse beaucoup aux citoyens. On propose plusieurs formats pour les sensibiliser, les initier à cette démarche zéro gaspillage et zéro déchet. Par exemple, des stands de sensibilisation, on va montrer aux gens comment réduire concrètement leurs déchets. Parce que réduire, c'est quand même un des points les plus importants dans la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Il faut réduire, il faut aussi réparer, réutiliser, il faut rendre à la terre, il faut refuser et puis dernièrement, il faut recycler. Donc des fois, on nous voit comme une asso qui fait du conseil en recyclage, par exemple. C'est pas tout à fait ce qu'on essaie de faire puisque... Nous, on se dit que recycler, c'est vraiment quand on ne peut plus rien faire d'autre. On recycle, mais le mieux, c'est quand même d'avoir évité les déchets en amont. Donc, par exemple, sur nos stands, on va expliquer aux gens comment remettre des objets durables dans leur quotidien et, par exemple, se passer des objets jetables. Je pense à des choses simples comme dans la salle de bain, abandonner les cotons-tiges jetables ou les cotons jetables, ce genre de choses. Dans la cuisine, ça va être comment se passer de film alimentaire ou d'aluminium. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour finalement réduire significativement la taille de ces poubelles. On a un autre type d'action, ce sont les ateliers créatifs, donc un groupe qui s'appelle Faire Soi-même. Et là, on va essayer de fabriquer des cosmétiques ou des produits ménagers avec des produits assez basiques qu'on peut même trouver en vrac, ce qui fait qu'on limite les emballages. Et on les fabrique de façon à pouvoir se dispenser d'aller acheter en magasin des produits tout faits qui, eux, sont emballés et d'ailleurs dont on ne maîtrise pas toujours la composition. Donc c'est aussi une démarche assez saine pour savoir ce qu'on a dans les produits qu'on utilise au quotidien. Dans ces ateliers créatifs, on a aussi un atelier de cuisine zéro déchet. On en a fait plusieurs autour de Mayenne. On va en faire un bientôt autour d'Evron également. Dans ces ateliers de cuisine, on apprend à utiliser au maximum les aliments. Par exemple, comment cuisiner un poireau dans son intégralité, le blanc, mais aussi le vert avec des recettes différentes. Comment utiliser les épluchures pour les valoriser, pour en faire un plat délicieux et pas les mettre à la poubelle ou au compost. On a également des conférences d'initiation au zéro déchet ou de sensibilisation aux grands enjeux autour de la consommation, la surconsommation, la déconsommation et puis toutes les pollutions par exemple engendrées par nos modes de vie. Et puis on a aussi plus globalement des temps de rencontre où on propose aux gens de venir discuter avec nous de leurs propres démarches, où ils en sont dans la réduction des déchets, on s'échange des trucs, des astuces. Ça peut être autour d'un café ou d'un verre dans un bar. Donc ça, c'est assez informel, assez convivial. C'est vraiment juste pour pas se sentir tout seul, parce que c'est pas forcément facile comme démarche de savoir quoi faire, de savoir où acheter d'autres produits, ou des fois ne pas acheter, enfin comment ne pas acheter. Et puis dernièrement, on fait aussi des interventions dans les médias, comme aujourd'hui, pour essayer de sensibiliser le maximum de gens à notre démarche.
On débarrasse, on est dans le rouge, faut que ça bouge, alors on recolle les babioles avec lesquelles on rafistole les écocasses pour notre envol. Voilà le topo, faut qu'on oublie, c'est ce qu'on nous a dit, mais on a osé rêver et tous unis on a réussi.
Récupérôle,
avant de jeter vos déchets,
récupérôle,
pensez à ces dossiers,
récupérôle,
d'autres pourront se servir, on a un meilleur monde à s'offrir. Nous rend chinois, c'est là qu'on soit. Tout va, déploie tes ailes, on se fait la belle. Il faut s'unir sur le même navire. Faut agir ou le subir, c'est les étoiles, on tire les voiles.
Utopie.
Voilà le topo, faut qu'on oublie ce qu'on nous a dit. Mais on a osé rêver, et tous unis on a réussi.
Récupérôle,
on change de patient foutu.
Récupérôle,
il y en a assez des ordures.
Récupérôle,
on rafistole toutes tes idoles. On lâche rien, on change de cap et on rigole. Sans terre, au-devant, le solidaire s'emballe. On déploie nos ailes dans les airs. Unis, on est tous millionnaires. Au-derrière, le capital sans terre. Au-dehors, le solidaire s'emballe. Oh, mais moi, je n'ai plus d'air. Alors, passez-moi le mic, faites péter les watts. On change rien de cap sur un, on se paye des boîtes.
Passez-moi le mic, faites péter les watts. On change rien de cap. C'est l'heure de guerre, c'est l'heure de lâcher les amarres. Comment des lâches, on en a marre.
On est debout, même dans la boue, et solidaire jusqu'en enfer. L'âge de recyclage va grâce celui du gaspillage.
L'âge de glace, l'âge de fer, l'âge de bronze, et l'heure de guerre, c'est l'heure de lâcher les amarres. Vraiment des lâches, on en a marre.
Nous vous recevons aujourd'hui afin d'aborder divers points et notamment parler du bonus réparation. Alors, justement, de quoi s'agit-il?
Alors, le bonus réparation, c'est une nouveauté. En fait, il fait partie de la loi dite AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire. C'est une loi qui vise à, comme son nom l'indique, à diminuer le gaspillage, réduire le gaspillage. Et pour donner quelques éléments de contexte au bonus réparation, elle vient du constat que énormément d'appareils électriques ou de mobilier sont jetés, alors que dans l'absolu, en fait, ils pourraient être réparés. Donc l'idée, c'est de se dire comment faire pour que les Français, les Françaises se tournent vers la réparation plutôt que vers le remplacement d'un objet, vers un achat neuf. Et du coup, voilà, en fait, il faut savoir quand même qu'une famille possède en moyenne 100 équipements électroniques et électriques. Donc, ça fait beaucoup d'occasions de jeter des choses, par exemple, et beaucoup de déchets qui sont produits. Le principal frein qui est remarqué, c'est le coût de la réparation. Il y a un seuil psychologique qui est de 30% du prix du produit neuf. Donc, ça veut dire que si on nous demande 30% du prix du produit neuf pour le réparer, il y a une sorte de réflexe assez humain qui se dit « ça ne vaut pas le coup de faire la réparation ». Il vaut mieux qu'on rachète du neuf, ça nous durera plus longtemps, c'est un meilleur investissement, etc. sachant que cet achat neuf, il n'est pas forcément fait de gaieté de cœur hein, par les consommateurs, parce qu'on se rend bien compte des déchets que ça produit, du gaspillage, etc. Mais malgré tout, il y a cette sensation que l'argent est mieux investi si on rachète du neuf. Donc l'idée de cette loi, c'est de se dire il faut aider les consommateurs à réduire le coût de la réparation avec donc ce petit bonus qui intervient du coup en déduction de la facture de la réparation. Alors ça existe depuis déjà un an, mais ce n'est pas encore extrêmement connu. Et puis là, au 1er janvier, ça s'est un petit peu élargi. Il y a certains montants qui ont été augmentés et puis il y a d'autres appareils qui ont été intégrés à la liste. En tout, il y a 73 types de produits. Si je peux vous donner quelques exemples, ça peut être du matériel, par exemple, pour la maison, aspirateur, bouilloire, machine à café, voilà, des choses vraiment du quotidien. Du gros électroménager comme du petit, le domaine image et son, l'informatique, la téléphonie également. On pourra revenir sur des exemples si vous voulez.
Et bien, comment bénéficier de ce bonus ?
Alors, il y a trois grandes étapes. La première, ça va être de déterminer si la panne de son objet est vraiment éligible au bonus réparation. Donc, par exemple, il faut que son objet ne soit pas déjà couvert par une assurance ou par une garantie, parce que si c'est le cas, on fait appel à la garantie, on fait appel à l'assurance. Il faut aussi qu'on soit un ménage. Le bonus, il ne concerne pas les professionnels. Et puis, il faut vérifier que son objet, il respecte la réglementation, les normes, par exemple, européennes, que ce soit de la contrefaçon, ce genre de choses, et puis qu'il soit aussi identifié avec un numéro d'identification. Une fois qu'on sait que notre objet est éligible, la deuxième étape, c'est de trouver un réparateur. Mais ce n'est pas n'importe quel réparateur. Il faut que ce soit un réparateur qui soit agréé par un label qu'on appelle Qualirépar. Et donc, on peut trouver ces... Alors, soit on demande aux réparateurs autour de chez soi s'ils ont ce label, soit on peut aussi aller en ligne. Il y a un moteur de recherche sur Ecosystem, par exemple, où vous tapez le type d'objet que vous avez à réparer et puis votre localisation. Et ça vous dit qui sont autour de vous les réparateurs agréés. Une fois qu'on a trouvé son réparateur agréé, on emmène son objet, on le fait réparer et puis le bonus va être déduit instantanément et de manière visible de la facture de réparation. Et à partir du 1er février 2024, les réparations en ligne sont aussi autorisées. Ça veut dire que si vous avez une réparation très spécifique à faire et qu'il n'y a pas d'artisan, par exemple, autour de chez vous qui peut faire cette réparation, vous pouvez l'envoyer, l'expédier finalement à un artisan ailleurs, que la réparation soit faite et que le produit vous soit renvoyé, et ça marche quand même.
Est-ce qu'il est possible de connaître les montants de ces bonus ? Je suppose que selon les appareils, les montants sont différents ?
Oui, alors tous les montants sont transparents, ils sont appliqués nationalement, c'est les mêmes partout, ça ne dépend pas de l'endroit où on habite. Sur Qualirépar, justement, sur leur site internet, vous avez un document récapitulatif qui reprend appareil par appareil et par catégorie le montant exact du bonus réparation. Si vous voulez un exemple, si vous voulez réparer votre aspirateur, vous pouvez espérer que 40 euros soient déduits de votre réparation si vous faites appel du coup à un réparateur agréé. Pour une bouilloire, on parle de 15 euros. Une machine à café tout automatique, ce serait 25, par exemple. Ça marche aussi pour la mobilité. Je pense aux trottinettes électriques ou aux vélos assistance électrique que de plus en plus de personnes utilisent. Vous pouvez avoir aussi 15 euros de réparation, enfin de bonus de réparation. Une nouveauté de cette année, c'est la casse des écrans des téléphones portables. Donc, c'est couvert par le bonus de réparation à hauteur de 25 euros.
Depuis le passage à la nouvelle année, ce bonus réparation a subi quelques modifications avec entre autres l'éligibilité de 24 nouveaux appareils. Vous nous l'aviez dit il y a quelques minutes. Alors, peut-être des exemples de ces nouveaux appareils ?
Oui, alors par exemple, la téléphonie n'était pas incluse en 2023 et l'est maintenant en 2024. C'est la même chose en informatique pour les imprimantes, les moniteurs d'ordinateurs, donc les écrans. Les ordinateurs fixes également. Jusque-là, il y avait seulement les ordinateurs portables, les scanners. En cuisine ou cuisson, vous allez avoir beaucoup plus d'offres, donc four à micro-ondes, friteuses, robots multifonctions, robots pâtissiers. Voilà. En santé ou beauté, il y a le rasoir électrique, l'épilateur, le lisseur. Il y a plein de nouveaux produits. Et sur les produits qui étaient déjà listés en 2023, on assiste à une augmentation aussi de certains montants.
Et le bonus réparation est-il applicable si j'ai, par exemple, plusieurs appareils en panne ?
Oui, en fait, il n'y a pas de limite d'utilisation du fonds de réparation.
Et quels seraient les avantages pour les consommateurs profitant de ce bonus réparation ?
Alors, les avantages, ils sont nombreux. Il y a des avantages sociaux, économiques, environnementaux. Si on parle des avantages environnementaux, ben on voit bien que si on privilégie une réparation, on va économiser l'énergie et les ressources qui auraient servi à fabriquer de nouveaux objets, puisqu'on se dispense de la fabrication de ces nouveaux objets. Et cette énergie, cette ressource, cette fabrication, tout ça, ça va aussi générer des gaz à effet de serre. Donc, on ne fait pas cela. Donc, tout ça, c'est de la pollution générée en moins. Évidemment, puisqu'on garde son appareil, qu'on ne le jette pas, il y a tout un volet de réduction des déchets qu'il n'y a pas à traiter. Et on sait que gérer les déchets, eh ben, c'est également source de pollution. Il faut les transporter, il faut les stocker, les enfouir. Parfois, tout n'est pas recyclé, loin de là. Et un autre avantage non négligeable, c'est le fait que le domaine entier de la réparation, c'est en fait un secteur économique qui est pourvoyeur d'emplois locaux et qui ne sont pas délocalisables. On va plutôt faire réparer près de chez soi que loin de chez soi. Et du coup, si on faisait tous réparer toutes nos affaires plutôt que les jeter et acheter du neuf ou chercher à recycler les objets en fin de vie, en fait, on créerait beaucoup plus d'emplois. Il y a beaucoup plus d'emplois sur la réparation que sur le traitement des déchets, par exemple.
Il me semble également que pour le consommateur, l'objet réparé est également sous garantie, quelques mois.
Oui, c'est ça. Et puis, autre avantage pour le consommateur, c'est aussi un gain en fait financier. Si on arrive à faire réparer pas très cher, évidemment, on n'a pas acheté du neuf. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Et je rappelle que si vraiment notre matériel est complètement hors d'état, voilà, obsolète, et qu'il n'y a plus qu'une solution, c'est le jeter, on peut aussi ne pas se diriger vers le neuf et réfléchir à tout ce qui est achat d'occasion, qui est du coup... Voilà, moins énergivore, ça permet de prolonger la durée de vie des objets, de diminuer du coup leur empreinte carbone.
Et est-ce que tout le monde peut profiter de ce bonus réparation ou est-il soumis à justificatif de ressources ?
Non, c'est ouvert à tout le monde. En fait, comme il est déduit instantanément de la facture du réparateur, c'est le réparateur en fait qui va faire cette déduction et le réparateur ne vous demande rien en ce qui concerne vos ressources.
Donc depuis la création de ce bonus réparation, est-ce que vous avez constaté une hausse des demandes des consommateurs ?
Alors les consommateurs s'emparent de ce dispositif, du fonds réparation, mais pas vraiment à la hauteur de ce qui avait été espéré au départ quand la loi a été promulguée en 2020. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient l'argent qui sert à financer ce bonus réparation. En fait, il vient de ce qu'on appelle un fonds réparation. Et en fait, ce sont les producteurs des objets, par exemple les télévisions, les aspirateurs, etc., qui adhèrent à un éco-organisme. Alors si ça parle aux auditeurs, c'est écosystème, refashion, ce genre de choses. Et en adhérant, ils s'engagent à verser une certaine somme d'argent à cet éco-organisme. Et ensuite, cette somme d'argent, elle est utilisée pour le fonds réparation. Donc tout dépend de quelle somme a été donnée par les producteurs de ces objets au départ. Cette idée du fonds réparation, elle a été moyennement accueillie par certains acteurs du secteur, notamment celui des équipements électriques et électroniques. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions à savoir quelle devait être la participation de ces acteurs. Et il en a résulté que le gouvernement a finalement modifié la loi de départ, donc en 2021, seulement un an après, en diminuant le montant total de l'enveloppe. Au départ, l'idée, c'était que le bonus réparation couvre à peu près 20% du coût de réparation. Et finalement, ça a été diminué à 10% au lieu de 20%. Et puis, deuxième arrangement, entre guillemets, ces 10% ne sont pas tenus d'être atteints la première année, mais au bout de 6 ans. Ce qui fait qu'on constate en fait une baisse de cette enveloppe. Et du coup, si on a moins de budget qui est versé par les producteurs pour participer à la réparation des produits, eh ben on a aussi un bonus réparation qui est moins fort pour chaque consommateur et qui est aussi du coup un peu moins incitatif qu'il aurait pu l'être pour les consommateurs et les consommatrices s'il avait été un peu plus élevé. Zero Waste France, donc notre maison mère, si vous voulez, à Zéro Déchet en Mayenne, a déposé un recours devant le Conseil d'État. Ils se sont associés aux Amis de la Terre France. Et en fait, ils aimeraient bien que ce décret soit annulé et qu'on revienne aux chiffres qui avaient été annoncés dès le départ, donc plutôt 20% des coûts estimés de la réparation des produits.
Et avec cette augmentation et l'annulation de ce décret, vous pensez que plus de consommateurs adhéreraient à ce projet ?
Je pense que oui, parce que je pense que c'est dans l'air du temps. Je crois que les gens ne jettent pas leurs affaires par gaieté de cœur et que vraiment, j'ai le sentiment que la plupart des gens préféreraient que leurs objets durent longtemps, soit réparer, faire travailler quelqu'un à côté de chez soi, avoir cette garantie de la qualité, etc., et des objets qui soient durables. Donc je pense que les Français sont prêts, en fait, à cet effort, Mais on entend bien dans ces temps d'austérité économique qu'on ne peut pas tous se permettre de remettre de l'argent dans des réparations dont on n'est pas toujours sûr qu'elles vont durer très longtemps. Voilà. Il y a vraiment une barrière psychologique à essayer de dépasser. Mais je pense que les particuliers sont prêts. Mais il faut que voilà, les gens qui mettent sur le marché ces produits contribuent aussi à hauteur suffisante. C'est un travail en fait vraiment... on voit toujours chez Zéro Déchet en Mayenne et Zéro Waste France un triptyque. C'est les metteurs sur le marché, donc l'industrie, ceux qui produisent des biens et services d'un côté, le gouvernement, les institutions de l'autre, et puis les citoyens, les consommateurs de l'autre côté encore. Et là, on voit bien, typiquement, on est sur une idée qui est excellente, mais voilà, il faut que les trois groupes de personnes arrivent à travailler ensemble pour vraiment que ça fonctionne.
Et donc la demande d'annulation de ce décret a été réalisée. Est-ce qu'il y aura un retour d'ici la fin de l'année ou quand est-ce qu'on peut espérer un retour et peut-être un changement, une réévaluation de cette aide ?
Le recours a été déposé, ça c'est fait. Et du coup là on est dans l'attente d'avoir le résultat. Donc, on n'est pas du tout sûr que ça va fonctionner. On espère, on met un petit peu la pression sur le Conseil d'État et voilà, puis on essaie aussi de faire la publicité de ce bonus de réparation pour montrer à quel point il est intéressant et on veut que tout le monde s'en saisisse. Mais c'est vrai que c'est les deux côtés, quoi. Il faut que les consommateurs s'en saisissent et il faut que les metteurs sur le marché augmentent aussi, abondent cette enveloppe de façon bien plus importante que ce qu'elle fait maintenant.
Qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les gros fonds, d'abord il faudrait des bateaux écolos. Toute une flotille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution. Si demain tu veux admirer les poissons, tous en manta avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Oui, oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affêter plein de bateaux. Car le temps presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on étend jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. Nous l'affirmons sans problème, oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique. Le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche.
Nous vous recevons également pour traiter d'un autre sujet très d'actualité, toujours en lien avec la loi AGEC, puisqu'en effet, depuis le 1er janvier 2024, cette loi rend obligatoire le tri à la source des biodéchets. Donc aujourd'hui, nous entendons tout et n'importe quoi concernant un petit peu cette obligation. Alors, afin de nous éclairer, je vous propose de commencer déjà en nous expliquant quels sont les objectifs de cette loi AGEC et qu'est-ce qu'on entend par tri à la source.
Ouais, donc la loi AGEC, elle est vraiment multiforme. Depuis 2020, elle touche énormément de domaines très très différents. L'emballage plastique, la réparation, l'interdiction des pailles en plastique, ça a été très médiatisé il y a quelques temps. Ça va vraiment dans plein de directions différentes. Et du coup, une des directions, ça a été cette histoire de collecte des biodéchets. C'est très intéressant de collecter les biodéchets séparément en fait des ordures ménagères classiques, on va dire la poubelle grise. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très coûteux de transporter les ordures résiduelles. Donc, si on peut alléger les poubelles, c'est quand même extrêmement intéressant pour les collectivités. Et donc, ensuite, par ricochet, pour les consommateurs également, puisque c'est quand même nous qui payons in fine ce traitement des déchets. Il faut savoir aussi que les biodéchets, donc en fait, on parle de... notamment, par exemple, vos déchets alimentaires de cuisine, hein, les épluchures, les restes de repas, ce genre de choses. Ils sont composés en très grande majorité d'eau, ce qui veut dire que quand ils sont traités avec les ordures résiduelles, souvent, il y a deux options, hein, soit c'est brûlé, soit c'est incinéré. Alors, si c'est brûlé, on se rend compte qu'on se retrouve à devoir chauffer des déchets à une température extrêmement élevée pour brûler, finalement, de l'eau, puisqu'ils sont faits en grande partie d'eau. Donc, c'est pas extrêmement intéressant. Voilà, c'est énergivore. Ça consomme beaucoup de ressources, mais au final, voilà, brûler de l'eau, ça paraît quand même un non-sens qui peut être évité assez facilement. Et si on les enfouit, c'est pas forcément beaucoup mieux parce que comme il y a beaucoup d'eau, justement, il y a une sorte de liquide qui va s'extraire un petit peu de tous ces déchets. Et ce liquide, comme il est au contact d'autres produits bien plus toxiques que des épluchures de carottes, tout ce qu'on met finalement dans nos déchets, dans nos ordures et tout ce qui est enfoui, ce liquide polluant va pouvoir s'infiltrer parfois dans la terre, va pouvoir atteindre les cours d'eau, générer des pollutions, etc. Donc en fait, on a une vraie, un gros impact de ces biodéchets dans nos ordures ménagères. Donc l'idée, c'est de les sortir de là. En plus, quand ils sont dans nos ordures ménagères, ils ne nous sont pas utiles, en plus d'être nocifs. Or, on sait que les biodéchets, c'est vraiment extrêmement utile. Ça vient de la terre, ça devrait retourner à la terre. Logiquement, voilà. Il y a énormément de gens qui font leur compost chez eux et ils savent très bien que faire son compost, ça sert à aller amender ses sols, voilà, faire son potager, etc. Donc, ils sont connus, en fait, les effets les bénéfices d'avoir des biodéchets, de garder ces biodéchets, de les faire se transformer en compost utilisable pour le jardin ou pour l'agriculture. Maintenant, l'idée avec cette loi, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour tous les foyers et pas seulement ceux qui... par exemple, pour un jardin, un compost, mais essayer en tout cas de généraliser cette pratique pour que tout le monde s'en inspire et puisse la faire chez soi.
Mais justement, avant de partir sur le compostage et sur les solutions pour le tri de ces biodéchets, on peut peut-être illustrer nos propos, donc la part notamment des biodéchets dans nos poubelles, qui était jusque-là importante. Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer cela ?
Oui, classiquement, on estime que dans les poubelles d'ordures résiduelles, il y a à peu près 30% de biodéchets. Donc une grosse partie de nos poubelles et donc l'idée c'est de le réorienter vers donc soit une autre poubelle, soit que ça n'aille pas du tout vers les poubelles. Et donc le propos de la loi c'est de demander ou d'inciter très très fortement les collectivités à proposer en fait aux citoyens des façons de sortir les biodéchets des poubelles. Et finalement chaque collectivité va un petit peu faire son propre choix en fonction de si c'est une commune rurale ou urbaine, des différentes caractéristiques de ses habitants, de sa ville. Et l'idée, c'est que chaque commune doit proposer à ses habitants des solutions. Elles peuvent être extrêmement variables. On peut se tourner vers le compostage individuel, par exemple. Donc, ça veut dire encourager les gens à composter chez eux. Donc, s'ils ont un jardin, ça veut dire un composteur assez classique comme on le connaît. Donc les communes vont plutôt aider à l'acquisition d'un composteur, soit en les offrant, enfin c'est pas tout à fait offert en fait, c'est plus en leur confiant gratuitement un composteur, soit en proposant une réduction sur l'achat d'un composteur, Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, c'est quand même possible de faire du compostage. On peut utiliser ce qu'on appelle des lombricomposteurs, par exemple, qui peuvent très bien s'utiliser en appartement. Donc ça, c'est qu'un aspect, l'idée de compostage. On peut aussi proposer une collecte des biodéchets, donc de demander aux citoyens, finalement, d'avoir, en plus de leurs poubelles de verre, de poubelles recyclables, poubelles d'ordures ménagères, une autre poubelle qui sera collectée séparément et dans laquelle ils ne mettront que leurs biodéchets. Charge ensuite à la collectivité de trouver un moyen de les valoriser.
Donc à travers, par exemple, des plateformes de compostage ou des méthaniseurs.
Voilà, par exemple. Donc ça, c'est chaque ville qui va trouver le fonctionnement qui lui correspond le mieux. Autre façon de faire du compostage que j'oublie, on peut aussi faire du compostage collectif. Et donc, ça peut être une initiative d'un quartier, par exemple, ou d'une mairie, de mettre à disposition des habitants, soit d'un immeuble en particulier, soit d'un quartier, soit de toute une zone de la ville, des composteurs qui seront gérés soit par des bénévoles, soit par des gens de la ville. Et qui fait que même si on vit, par exemple, en appartement ou avec un tout petit jardin, on peut apporter ses biodéchets à un endroit précis et le compostage se fera sur place. Ça peut même donner lieu à des temps assez conviviaux où, au bout de quelques mois, toute personne qui a envie de récupérer un petit peu d'humus, en fait, le résultat du compost, peut le venir. Il y a des fois des fêtes du compost dans les quartiers. Donc venir le récupérer et puis le mettre sur ses plates-bandes, dans ses pots de fleurs, etc. Donc il y a un côté en plus directement utile dans ce geste de compostage, en plus d'avoir moins de pollution, etc., et d'éviter des surcoûts sur la gestion des déchets, c'est aussi créer du lien social et c'est aussi récupérer un produit qui est directement employable. Plutôt que d'aller dans une grande surface de jardinerie pour acheter du terreau, par exemple, finalement, on peut le récupérer à côté de chez soi et il a été fait par les gens du quartier.
Malheureusement, on le constate déjà, même si de plus en plus de collectivités locales enclenchent les démarches, elles sont encore trop nombreuses à afficher un retard préoccupant dans le déploiement du tri à la source des biodéchets et ne proposent pas de réelles solutions, en tout cas aujourd'hui. Alors comment les choses peuvent-elles être améliorées ?
Oui, c'est un vrai constat, même si ça fait du coup un moment qu'on sait que cette loi va arriver, va être mise en application au 1er janvier 2024, finalement, à cette date-ci, je crois qu'il n'y a qu'une commune sur trois qui est complètement prête pour organiser cette solution de réduction des biodéchets. Je pense que les communes sont en train de travailler sur la question et on peut accuser un peu de retard, mais je ne doute pas de leur bonne foi et je pense que toutes les communes sont en train de chercher des solutions, devraient peut-être de s'inspirer des communes qui ont un peu plus d'avance et de regarder quelles sont les solutions qui ont fonctionné chez les voisins pour savoir quelles solutions opter pour eux-mêmes.
Et actuellement, les particuliers n'ayant pas la possibilité de compostage ou de tri de ces biodéchets, peuvent-ils être amendés ?
Alors non, parce qu'en fait, ça c'est aussi une des fausses informations qui circulent en ce moment, parfois par les médias eux-mêmes malheureusement. C'est une responsabilité du consommateur, hein, mais au sens plutôt moral en fait. On nous encourage à faire ce tri des biodéchets et cette valorisation. Ceci dit, c'est pas à nous de mettre en place les solutions à l'échelle d'une commune. Donc ceux qui sont responsables, c'est bien, les communautés de communes, les agglomérations, c'est à elles de fournir ces solutions-là. On ne peut pas être pénalisé, on ne peut pas être verbalisé à titre personnel si on ne fait pas ce tri.
Dans ce cas, quelles sont les obligations, si je puis dire, des citoyens ?
Un citoyen peut être pénalisé s'il ne gère pas ses déchets, s'il n'évacue pas ses déchets, selon les solutions qui sont proposées par sa communauté de communes, c'est-à-dire le dépôt sauvage de déchets est interdit et peut être verbalisé. Au-delà de ça, soyons juste des bons citoyens, mettons les bonnes choses dans les bonnes poubelles et tout passera bien pour nous.
Et bien sur ces sages mots, je vais vous inviter à nous donner les contacts de l'association Zéro Déchet en Mayenne.
Oui, alors vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver une page Zéro Déchet en Mayenne sur Facebook, également sur Instagram. Si vous voulez nous contacter directement, c'est possible sur notre email. C'est mayenne@zerowastefrance.org. Et puis, on a un site internet qui est en construction, mais qui commence à recenser un petit peu les actions que l'on fait. Et puis, les prestations, parce qu'on peut aussi faire appel à nous en tant qu'entreprise, en tant que particulier, par exemple, en tant que collectivité. Et donc, ce site internet, c'est ZDM, donc comme zéro déchet en Mayenne, .ouvaton.org.
Je vous remercie pour votre participation sur notre antenne ainsi que de vos précieux conseils et je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement.
Dans les grands quartiers, chacun a son potager. L'arrêt du réchauffement aide à faire comportement. Mais mon sol tout sec donne foi au rapport du GIEC qui, en chaque saison, nous promet l'armageddon. Pourquoi faire ces graines à l'heure de l'anthropocène? Un fini copropélie, si l'humus est tout rôti. Ma foi étant mienne, je néglige ma grelinette. Et face à l'holocauste, que peut mon lombric compost? J'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété. Chaque nouveau lit me résigne, surtout ce Pablo Servigne. Et j'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété. Dans le canapé je mange des chips en attendant l'apocalypse. Depuis que je suis minot, je fais popo dans les copeaux. Et même à un âge mûr, mes chiures tombent dans la sude. Quelque chose me stresse tout au fond de mes toilettes sèches. Je veux pas que mes étrons justifient s'il y ait des trompes. Je mets plus de végétaux sur les crottes au fond du son. Pas un épicéa ne périra pour mon caca. Vouloir que ça sente pas, c'est un truc de petit bourgeois. C'est ce que j'ai rétorqué à tous mes voisins de palier. J'arrive plus à me soulager, j'ai trop d'éco-anxiété. Je veux pas me torcher le sphincter avec la forêt primaire. Et j'arrive plus à me soulager, j'ai trop d'éco-anxiété. J'ai perdu toute vie sociale, pas la faute de mon trou de balle. Mes voisins pétitionnent pour me chasser de la location. L'occasion est trop bonne d'essayer l'autoconstruction. Bâtir un toit éthique, une maison bioclimatique. Je veux tâter de la taloche, même si je suis ultra gauche. Ça me tue le pin en passant ma barbotine. J'ai dû poser une panne sur un gros nœud de Hartmann. Quel est le bilan carbone de mes vis, de mes crémones? Et mes panneaux solaires sont-ils tous vernaculaires? J'arrive plus à bricoler, j'ai trop d'éco-anxiété. Je vois des images du carnage dans la vase de mon lagunage. Et j'arrive plus à bricoler, j'ai trop d'éco-anxiété. Je fous le feu à mes murs de paille et je me casse dans la broussaille. Aïe, 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 les ronces m'assaillent. Je m'enfonce into the white. Je joins les ours blancs, je suis la nature qui se défend. J'ai troqué ma Rolex contre une collection de silex. Mon costume Pierre Cardin contre une peau de ragondin. La chasse est trop la dèche avec un arc et des flèches. Pas une touche sur ma canne, je me sens devenir vegan. Le survivalisme n'est plus qu'un anachronisme. On va tous y passer, même en hutte dans la forêt. J'arrive plus à espérer, hé hé. J'ai trop d'éco-anxiété. Devant le grand incendie, je fais des michouilles de colibri. Et j'arrive plus à espérer, j'ai trop d'éco-anxiété. Si le chaos a déjà gagné, je vais aider le monde à collapser. Je me suis informé sur les techniques, les méthodes, voir si la lutte armée pouvait revenir à la mode. Je cherche la bonne recette, le gang de la clé à molette. Je veux semer la terreur, 100 fois plus qu'une abombeur. J'ai pas la syntaxe pour faire des lettres à l'anthrax. J'ai pas joué du crochet pour arrêter les TGV. Face à la catastrophe, comme une Kalachnikov, les pros du BTP se moquent bien du TATP. J'arrive plus à me raisonner, j'ai trop d'éco-anxiété. Ah, commenceront les attentats, ils vont regretter ETA. Ah, 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 j'ai trop d'éco-anxiété, j'aurais plus à me raisonner. On va allumer la mèche et ils vont regretter la hèche.
À ce moment-là, je sais que là, tout de suite, ma dépression écolo vient de finir.